C'est parce qu'elle vient de me garrocher une feuille. Le journal La Presse fait quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Il s'intéresse au coût du panier d'épicerie et particulièrement au coût des légumes. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, je pense en juin dernier, le céleri est monté à 6 piastres le pied de céleri.
Est-ce que tu te rappelles pour quelle raison?
C'était particulier le motif. Je me rappelle plus pour quelle raison.
C'était la popularité des jus de céleri.
Oui, c'est parce qu'il y a
fait par promotion de genre influenceurs gourous de la santé.
Es-tu sérieux?
Oui. Il y a une espèce de gourou qui a commencé à dire que le jus de céleri c'était la meilleure affaire que tu pouvais mettre dans ton blender.
Puis
ça a provoqué une demande pénurie pour le céleri.
Aïe, aïe.
Qui était délirante. Ouais. Et là, maintenant, le céleri est revenu à un prix normal depuis déjà
quelques années.
Parce que c'est notre céleri à nous. Mais quand on n'en aura plus d'un serre, là, il va remonter.
Mais comme l'hiver et la salade. Là, la salade, là, plus l'hiver arrive, plus tu vois le coût de la salade doubler, tripler, ça devient hors de prix.
Oui. Mais on a toujours eu le phénomène que l'été, le prix des fruits et légumes baisse et l'hiver, il augmente. Mm-hmm. L'hiver, c'est pour ça que traditionnellement, on mange l'hiver des navets, des panais, des patates.
Ce qui va dans le caveau puis qui reste frais.
C'est ça. Ou encore, ce que de vaillantes personnes font, c'est-à-dire des conserves. N'est-ce pas, Pascal?
J'adore. Enfin.
Bon. Alors, c'est comme ça que on continuait à avoir notre apport de légumes l'hiver puis qu'on échappait à la hausse des prix délirante à laquelle on assiste. Maintenant, on fait de moins en moins, à part Pascal, des conserves.
Mais je pense que j'en fais moins aussi que la normale avant. Là. Il y a une certaine époque, là, je ne suis pas avec mes 20 conserves que je fournirais ma famille.
Hey, ma grand-mère, là, elle continue de faire des conserves encore et encore. Elle nous donne ça là, quand je vais chez elle. As-tu besoin du poulet, telle affaire, là, des bêtes?
C'est la façon d'échapper à l'augmentation, à l'inflation inévitable en hiver. Parce que là, ta laitue, elle va partir de la Californie, puis il faut que tu la transportes par camion dans des places à Extinction Rébellion.
Oui.
Donc, forcément, elle va te coûter plus cher. Mais là, ce que la presse constate, c'est qu'on observe, même en été, une augmentation importante du prix des légumes, des fruits et légumes, et plus au Québec qu'ailleurs.
Est-ce que c'est la température, l'été qu'on a eu, ça a pris du temps, puis ça a gelé vite?
Ils sont pas capables d'expliquer pourquoi plus au Québec qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a plus de demandes de fruits et légumes?
Ouais.
Ils sont pas capables. Mais on a un 17% d'augmentation des coûts des fruits et légumes.
Ça paraît, là. 17%, c'est énorme.
17%?
C'est énorme.
Ouais. Ben là, dit que sur 2 piastres, c'est toujours bien 40 cents de plus, là.
C'est ça. Et là, ce qui est bizarre, c'est qu'ils s'en vont voir les producteurs. La presse dit, ça augmente. On va aller voir les producteurs. Les producteurs disent, non, moi, pas d'augmentation de mes revenus. Donc, ce sont les intermédiaires qui, en cours de route, ramassent le cash. Ou encore, c'est le gaspillage alimentaire. Si, par exemple, tu as un intermédiaire qui ramasse, je vais dire n'importe quoi, ta laitue, qu'il l'amène dans un caveau, qui est obligé d'en jeter une sur trois parce qu'il l'a laissé trop longtemps dans son entrepôt, puis qui ensuite l'amène à l'épicerie qui, elle, en jette une sur cinq, le prix de ta laitue vient d'augmenter sans que le producteur, soit capable d'en bénéficier.
Parce que t'en vends une coupe de moins, là, quand même, d'argent dans tes poches.
Est-ce que ça voudrait dire, justement, qu'on mange moins de légumes? Que donc, sur les tablettes, on est obligé d'en jeter plus parce qu'il y en achète moins, il y en a moins qu'on achète?
J'aurais aimé qu'on questionne un peu la chaîne. Parce que les producteurs disent, moi, j'ai pas eu 17% d'augmentation.
Est-ce qu'on assiste?
Et le consommateur, lui, paye 17% plus cher.
On assiste à la même chose que pour les fromagers, par exemple. Que là, c'est extraordinaire. Quand tu t'en vas à l'épicerie, là, c'est pas eux qui se mettent ça dans les poches, là. Tu leur parles, puis j'avais fait un petit reportage là-dessus. Des fois, c'est du 40% de profit. Ouais. Est-ce qu'on est en train de s'adapter à ça parce que là, il y a une grosse popularité par rapport aux fruits et légumes?
Pourtant, là, le total de ton panier d'épicerie n'a pas augmenté de plus de 3-4%. Ce sont les fruits et légumes. Puis là, il faut savoir ce qui se passe dans chacun des fruits et légumes. Et c'est ça qui est intéressant en presse. Parce qu'ils expliquent, par exemple, que les légumes surgelés ont le prix a augmenté de 4,5%. Les légumes en conserve, ça a augmenté de 10%. Pourquoi? À cause de l'acier. C'est pas le prix du légume.
Hein?
C'est le prix de l'acier.
Boîte.
C'est quand Trump et Trudeau ont joué au fou avec les tarifs douaniers sur l'acier. Le prix de l'acier a augmenté, donc le prix des canages a augmenté. Puis quand on a retiré les tarifs douaniers, les gens qui faisaient du profit ont dit « c'est donc bien le fun, on va continuer ». Puis ils ont continué. Ils n'ont pas baissé le prix des canages. Donc on continue à payer l'acier des canages le même prix que si Trump nous avait imposé des tarifs douaniers.
Ben vivement le zéro déchet. À ce moment-là, on va pouvoir aller chercher nos petits pois tout seul dans notre petit sac au lieu d'en canne.
Vivement les conserves.
Oui aussi. Oui aussi. Puis il y a certains légumes qui augmentent alors que d'autres baissent. Et ce qui est difficile pour le consommateur, c'est de le savoir. C'est compliqué de suivre le cours des fruits et légumes.
Et ça, c'est pire que la bourse. Les variations, là, c'est incroyable.
Ouais. Tu vois, il y a un auditeur qui dit « Les avocats sont plus dispendieux qu'auparavant aussi. » Je pensais qu'il parlait d'une cause en particulier. Ben, mais c'est vrai. C'est vrai qu'avec la popularité des...
Des blogueurs, des influenceurs?
Non, les avocats, là, il y a...
L'espèce de miracle,
de pâtelette verte.
La guacamole.
La guacamole. Depuis la...
la guacamole est rendue si populaire que ça?
Non,
c'est les toasts à l'avocat qui sont populaires, Myriam.
Toasts à l'avocat.
Tu connais tes...
T'es-tu sérieuse? Ouais. Parce que j'ai vu le texto, je me suis dit, qui c'est qui mange ça, de l'avocat d'abord? Là?
Non, c'est délicieux. Ouais. J'étais la première qui... Je trouvais ça répugnant. Là, il y a peut-être deux ans, tu prends une bonne toast, tu mets de l'avocat que tu pèles un peu dessus. Là.
La boîte,
c'est
là.
Ça, t'appelles, là, mais tu fais une petite boîte avec. Un peu de tomate cerise, un peu de fromage feta. Tu te fais un œuf poché, tu mets ça là-dessus avec un peu de sirop de vinaigre balsamique. Là.
Ça, tu te fais pas ça un mardi matin? Là.
Non.
OK.
OK, par exemple, moi, j'ai toujours cru que la pomme était le fruit le moins cher au Québec. On est capable de la stocker.
On n'a pas loin.
On n'a pas loin, etc. Le prix de la pomme a augmenté de 10 % même au mois d'août.
Mais c'est-tu les pertes? C'est ça que je trouve ça plate de ne pas savoir, parce qu'on a eu quand même deux étés plus ou moins faciles pour les récoltes.
Les producteurs de pommes disent qu'eux autres ont eu une augmentation de 5 % notamment à cause de la rareté, parce que la météo de 2018 a empêché les arbres de bourgeonner comme ils le devraient en 2019.
OK. Bon, ça, c'est une explication.
Donc, les pommes coûtent nettement plus cher qu'avant.
Ouais.
Le poisson frais a augmenté de 9 % au Québec, tandis que dans le reste du pays, c'est 6 %. Ça veut dire que moi qui suis proche des ressources halieutiques, comme on dit, je vais payer 9 % plus cher pour mon poisson, tandis que le gars du Manitoba, il va juste payer 6 % plus cher alors que lui, il est loin de la ressource.
Donc, c'est pas seulement les fruits et légumes.
Non.
Plus large. Mais sais-tu à quoi j'estimerais ça, moi, là-bas? Moi, je pense que c'est la pénurie de main-d'œuvre. Puis qu'à un moment donné, il faut que tu payes tes salaires plus cher, et qu'à un moment donné, il faut que tu te rattrapes dans le profit, et que la façon la plus simple d'aller monter ton profit, parce qu'effectivement, que la norme, là, d'habitude, prend autour de 30 jusqu'à 40 % mais c'est de profit pour le marchand lui-même. Mais c'est l'endroit le plus facile de faire monter tes prix, parce qu'on est habitué qu'il y a des variations dans le prix des fruits et légumes. Je peux complètement me tromper, mais j'ai l'impression que c'est peut-être une manière d'aller se rattraper.
Beaucoup de gens nous parlent de transport, taxe sur le diesel, c'est ça qui entre aussi au 25226.
Ben, il faut pas oublier la taxe carbone.
Oui.
La taxe carbone vient augmenter le prix de l'essence, le prix du transport de toutes les marchandises. C'est pour ça que quelqu'un comme Jean Garon, à l'époque où il était ministre de l'Agriculture, souhaitait garder une autonomie alimentaire pour le Québec. Il souhaitait qu'on soit capable de faire pousser au Québec ce que ça nous prend pour nourrir le Québec.
Je comprends pas que ça ne soit pas une priorité.
Ben, c'est même le contraire d'une priorité.
Mais c'est
qu'actuellement, la façon dont les fermes se passent, ça devient des fermes monstrueuses. Les Chinois ont tout intérêt à ce qu'on produise du soya puis des trucs dont ils ont besoin. On devient le grenier du reste du monde. On est en train de tuer l'offre et la gestion de l'offre, qui permettait aussi de continuer à produire ici des trucs qui sont produits à moins cher ailleurs. Alors, le beurre, par exemple, a augmenté de 12 % au Québec.
Le beurre.
C'est bizarre, hein? La viande de bœuf, 4,5 %. Mais le porc a baissé de 3 %.
Mais depuis qu'on exporte moins en Chine parce qu'ils veulent plus notre porc, parce que ça a l'air qu'on n'est pas bon notre porc.
J'en suis à dire qu'on devrait avoir, quelque part, une publication quotidienne qui m'indique ce qui monte puis ce qui descend.
Comme la bourse.
Mais quelque chose d'accessible et de compréhensible
pour le consommateur. Oui. Mais c'est à se demander pourquoi, effectivement. Il y a deux choses dans la vie on a besoin. C'est un logis et c'est de se nourrir. Ça devrait être les deux choses qu'on soit le plus au courant de ce qui se passe. Puis s'il faut faire des réserves, s'il faut stocker du stock, s'il faut regarder ce qu'on va acheter. Puis c'est pourtant, on dirait qu'on n'est pas vraiment enclin à le faire. Et c'est hyper important. Moi, quand tu dis on devrait être sensiblement indépendant.
Autonome,
mais indépendant aussi, parce que tu vois, il y a une mode en ce moment, des serres à la maison, des poulaillers dans la cour. On retourne à cette vieille époque-là, on était capable de subvenir à nos besoins sans avoir à faire affaire avec maraîcher ou surtout supermarché.
C'est parce que la poule qui te donne un œuf par jour, là, tu sais ce qu'elle a mangé. Tu sais comment elle a fait ses nids de poule.
Oui. Mais faut que tu s'en occupes.
Ça vient de là, les nids de poule.
Mais faut que
non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Une poule, là, c'est... vous savez d'où ça vient, l'expression de nid de poule?
C'est l'expression, mais pas ce qu'on a dans la rue.
Oui, non. ça vient du fait qu'une poule, là, pour ça métabolise les minéraux du sol par la peau. Donc, une poule, quand tu la laisses en liberté, elle va creuser le sol, elle va s'étaler, là, mais elle devient trois fois le volume qu'elle a normalement. Elle s'étale littéralement dans le trou qu'elle fait pour permettre aux minéraux du sol d'être métabolisés par sa peau. C'est comme ça qu'elle absorbe des minéraux.
Mais c'est brillant, pareil.
C'est... Plus intelligente qu'elle est belle.
Et c'est pour ça que...
Ah, c'est beau, une poule.
C'est pour ça qu'à un moment donné, dans des trucs de poule en liberté, t'as des trous partout. Alors, c'est ça, les nids de poule. Mais nous, on a importé ça dans les rues, probablement par nostalgie agricole.
Là. Mais il faut s'en occuper. C'est la seule problématique, faut s'en occuper avec un rythme de vie effréné qu'on a en 2019, mais aussi le vouloir de retourner à notre ancienne tradition.
Plus que ça. Une fois qu'elle a fini de te donner ses œufs, là, faut que tu aies le courage de la trucider puis de la manger.
Myriam,
de la bonne poule.
Hashtag BDC.
Non, personne ne touche à mes poules.
8h03. La planète n'arrête pas de tourner. Pour essayer de comprendre la hausse du prix des fruits et légumes notamment, il y a plusieurs auditeurs qui nous ont écrit. Il y en a qui disent « Je suis camionneur, j'ai 500 litres de fioul par jour. C'est sûr qu'une taxe carbone dessus, puis le prix de la livraison augmente terriblement. » Plusieurs disent « Pierre, qui est un agriculteur, nous dit « Le prix des intrants qui continue de monter, le prix à la ferme pour mon produit est stagnant et baisse quand même. Le secteur de la transformation, elle, augmente sa rentabilité. » Donc lui, il pense que c'est dans la transformation que l'argent passe. Il y en a qui disent, regarde, les gouvernements sont tellement pressés de nous taxer qu'ils se rendent pas compte qu'ils nous font du mal en nous taxant. On a au bout du fil quelqu'un qui voulait nous parler de ce sujet-là. Il s'appelle Robert Rochette. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame, ça va bien?
Oui. Qu'est-ce que vous connaissez particulièrement là-dedans, vous?
Ben, nous autres, en réalité, là, c'est un genre de petit... Moi, je pense déjà une opportunité qu'on pourrait offrir à vos auditeurs. Voyez-vous, nous, on est un organisme, les moissonneurs solidaires. Notre but, on produit des légumes pour approvisionner les banques alimentaires.
Okay.
On n'a aucune subvention, c'est comme un organisme privé. Et nos légumes, on les donne aux banques alimentaires. En fin de semaine, on a comme un genre, étant donné que c'est la fin de semaine de l'Action de grâce, on a comme un genre de porte ouverte où ce que les familles peuvent en profiter. Venir à la ferme en tant que telle, aller dans les champs, ramasser les légumes, sachant très bien qu'ils vont aller dans les banques alimentaires. Et on a un petit genre de marché public avec l'aide des cultivateurs dans le coin pour avoir une variété de légumes et on les laisse à un prix juste dérisoire qui nous aide un petit peu à payer nos frais en tant que tels.
Ça se passe où, ça, M. Rochette?
Ça, c'est dans le rang Saint-François, c'est les moissonneurs solidaires. C'est à la ferme de Défi Jeunesse Québec. C'est un centre qui aide des hommes qui ont besoin de ressourcement, qui ont peut-être pris des mauvaises décisions dans leur vie. Fait qu'ils sont là, puis je vous ai en même temps, mais ils donnent un petit coup de main dans les champs. Là.
OK. Je veux bien comprendre votre affaire. Là. C'est où le rang Saint-François, là?
À Lebinière.
Dans Lebinière, OK.
Oui, 878 rang Saint-François, Lebinière. Okay.
Et ce que je comprends, c'est que c'est une ferme qui est en même temps un hébergement pour des gens qui doivent reprendre leur vie en main.
Oui, exactement.
C'est ça? Et sur cette ferme-là, les gens travaillent, produisent des légumes que vous donnez aux banques alimentaires. Oui. Puis là, aujourd'hui, vous ouvrez vos portes pour donner vos légumes et vos produits à du monde qui serait prêt à venir les récolter direct dans le champ.
Ceux qui viennent récolter dans le champ, les légumes s'en vont aux banques alimentaires. On a des légumes qu'on peut les vendre à eux, là, un prix là nettement en dessous de ce qu'ils payent au marché. Mais en réalité, le but de l'exercice, c'est de donner un petit coup de main. C'est comme j'expliquais à la personne qui m'a répondu. Tu sais, la semaine passée, on avait la Fierbourg qui sont venus avec 70 adultes. Vendredi, j'avais l'école La Seigneurie. Il y a l'école Louvive qui va venir. Pamphile de Mai vient la semaine prochaine. La Pôture Assurance, La Capitale, Desjardins viennent, eux autres, parce que c'est corporatif en même temps. Puis ça fait, on va dire, comme on dit, ben je veux dire, l'organisme envoie des gens comme nous donner. On a 1500 personnes. Qui viennent nous donner un petit coup de main.
Là, c'est une maudite belle activité aussi d'un employeur pour une œuvre de bienfaisance puis qui resserre les liens. Mm-hmm. Moi, j'ai hâte de voir Pascal les bottes dans le champ en train d'aller de cueillir vos légumes.
Ben, si Pascal s'en vient, elle va juste venir me voir. Puis,
ce serait pas une première.
Pardon?
Ce serait pas une première.
Ça sera pas une première.
Ah non, après à quatre pattes dans des rangs pleins d'eau avec plein d'amis mexicains, là, j'ai tout vu. Là.
Vendredi, là, j'avais le secondaire 1 de l'école La Seigneurie. Je vais vous dire ce que j'ai dit aux jeunes après qui ont fini de récolter. Là, bon an, mal an, il était 58 jeunes. On a ramassé 70 000 livres de choux et navets du secondaire 1. N'est-ce pas ça le plus merveilleux? Comme j'ai dit aux gens, j'ai dit, savez-vous ce qui m'a vraiment là, béni là, de votre participation? J'ai dit, vous étiez tellement polis. Cette école-là, là, je sais pas, là, les professeurs sont tellement dévoués. Ils me donnaient un coup de main. Là. Et c'est ce qui m'a impressionné le plus. C'est sûr qu'on a ramassé des légumes. Là, mais si jamais il y en a de cette école-là qui entendent ça, là, ces élèves-là, là, vraiment, ils ont été une source de joie pour nous autres, les bénévoles, là. Qui ont à leur montrer quoi faire, ainsi de suite. Là. Fait que, on a passé vraiment un beau vendredi. Là. Puis, la semaine prochaine, ben, ça va être la même affaire. Là. Jusqu'à temps qu'on arrive aux neiges, là, puis on souhaite sortir tous nos légumes. Là.
Vous vous rendez compte aussi, M. Rochette, que pour beaucoup de jeunes urbains, ils ignorent totalement comment on fait pousser les légumes puis comment ça se passe dans un champ?
Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Et c'est ce qu'un des enseignants disait aux jeunes. Il dit, aujourd'hui, vous allez acquérir un bagage de connaissances. Là, vous n'avez pas idée comment ça va vous aider dans la vie.
J'ai une question pour vous, M. Rochette. Oui? On nous écrit par texto. Je ne sais pas si ça vous concerne aussi, mais il paraîtrait, tu sais, quand tu aides des gens qui ont besoin d'aide, mais que toi aussi, tu as besoin d'aide, là, vous allez comprendre le texto. On reçoit, je suis un membre de la Société Saint-Vincent-de-Paul et on a offert à nos bénéficiaires d'aller chercher des légumes et directement dans ce genre d'endroit-là. Est-ce que vous en avez reçu?
Honnêtement, là, comme nous, en réalité, durant la semaine, là, comme là, c'est les écoles, là, fait que si on sait, c'est tel organisme qui va venir. Mais en fin de semaine, c'est un petit peu plus, on va dire, libre. Là, fait qu'il y a des familles qui viennent de partout. Là. Ben, vendredi, on a eu, on a des pommiculteurs qui, à un moment donné, dans l'année, eux autres, ils veulent consolider leur verger. On a une famille, la famille Godefroy, sont partis de Latuc. Il était une vingtaine, une famille de 20. Oui, ce monsieur-là a adopté des jeunes qui étaient en difficulté. Vous auriez dû voir cette famille-là, c'est franchement là. Les jeunes étaient fins au bout, ils ont vidé le verger du pommiculteur. Ils sont descendus de Latuc. Puis le père, là, il y a un mini autobus scolaire. Là, sa famille.
Non, mais c'est, il y a des belles histoires.
On voit des choses, d'autres là, c'est fantastique. Là.
J'ai l'impression qu'on va envoyer Pascal vous voir à un moment donné. Merci beaucoup, M. Rochette. Répétez-nous l'adresse exacte. Et,
878 rang Saint-François-Lebinière, mais en allant sur Internet, là, les moissonneurs solidaires, là, puis la semaine passée, Radio-Canada était chez nous, sont venus filmer, là, pour, on a déjà passé la semaine verte. on a passé la semaine verte, puis la semaine verte, vous avez demandé, il y a plusieurs années, s'ils pouvaient repasser notre reportage, là, dans les années subséquentes. C'est bien sûr que nous autres, on est dit oui, là. Puis en passant au FM 93, là, j'ai été personnellement, moi, la journée, là, où ce qu'on ramasse des sous avec le souper, là, avec, voyons, Sylvain.
La guignolée, oui, Sylvain Bouchard.
OK.
Oui.
Et j'avais emmené des gros sacs de choux, carottes, navets, que j'avais laissés à la station. Donc, c'est sûr et certain que s'il y a des personnes qui dans votre équipe, là, qui étaient là il y a 4-5 ans, ils ont certainement entendu parler de ça, parce qu'apparemment, ils se sont tous séparés les légumes. C'était le but de l'exercice.
Merci beaucoup, M. Rochette, et bonne chance. J'espère que vous aurez de la visite aujourd'hui.
Ben, merci beaucoup.
Au revoir.
OK, au revoir.
Le cœur sur la main. Hein? Ouais, ça s'entend des bonnes personnes.
Ouais. Le message qu'on avait reçu, puis je veux pas embarquer M. Rochette là-dedans,
non,
là, c'est que y a un organisme qui a proposé à des assistés sociaux d'aller à cet endroit-là.
Exact.
Puis ils ont dit non.
Non, c'est ça.
Ils ont préféré aller dans des... Mais tu sais, l'aide sociale, c'est plus complexe que juste de... Ils ont besoin d'aide à d'autres niveaux également que le niveau alimentaire.
C'est plus de se faire prendre par la main.
Avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on a, ceux qui restent maintenant encore sur l'aide sociale, ce sont des gens qui sont pas mal plus poqués que juste « j'ai pas d'argent ».
Ou « je veux pas travailler ».
Non, c'est plus complexe que ça. T'as probablement beaucoup de cas de toxicomanie, de maladie mentale, etc. Il est 8h21.